Nous allons réouvrir l'évangile de Marc. Depuis 5 semaines, nous l'avons laissé, et je vous rappelle que depuis plus d'un an maintenant, nous avons des prédications suivies sur cet évangile, entrecoupées parfois d'autres types de prédications, et que nous avons eu l'occasion de voir l'évolution du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ tel qu'il est relaté dans cet évangile, où pendant 2 ans et demi, dans une première phase, et nous avons déjà clôturé cette phase d'étude de l'Évangile, Jésus-Christ a multiplié les marques de son autorité, de sa puissance au sein de son peuple, du peuple de Dieu, Israël, en le parcourant, donnant son enseignement qui est frappé par son autorité et en accomplissant des actes qui authentifiaient cette autorité, des miracles, des guérisons, des délivrances de démons, etc., de toutes sortes. Et pendant toute cette période, à la fois, il a acquis une grande popularité au sein du peuple, mais il a cristallisé aussi toute l'opposition des religieux de son temps. Et il y a eu, au point où nous en arrivons actuellement, une longue suite d'altercations successives avec les pharisiens, avec les religieux, à propos de différents sujets. J'en ai compté à peu près 10 jusqu'au point où nous en sommes. Et ce n'est pas fini, vous allez voir, pendant le reste de l'évangile, jusqu'à sa mort, la confrontation va être violente avec ces religieux qui n'ont qu'une idée en tête, c'est de le tuer, l'amener à la mort. Ces altercations, elles constituent comme une espèce de fil rouge tout au long de l'évangile, et on peut suivre un petit peu cette évolution où Jésus dénonce l'hypocrisie, l'incrédulité, l'intéressement, l'enrichissement personnel de ces religieux sur une prétendue spiritualité, une prétendue religion, le judaïsme de leur temps. Et il les place ainsi devant leurs responsabilités. Nous sommes, avec le texte que nous allons lire dans quelques instants, au mardi de la dernière semaine. Nous rentrons dans une période, depuis les 2 dernières prédications, si je me trompe, où ce sont les derniers jours de Jésus-Christ. C'est une période qui est vécue d'une façon plutôt assez pathétique de la part de notre Seigneur, qui sait vers quoi il va, quel est le but, et qui sait aussi avec ses disciples que sa fin est proche, qu'il va bientôt les quitter. À la fin de la semaine, il sera crucifié et nous y arriverons dans quelques prédications. Nous sommes, dans le texte que nous allons lire ce matin, au cœur du judaïsme, de la religion aux mains des religieux, des pharisiens, des sadducéens, des chefs du temple, de la police du temple, des souverains sacrificateurs, des sacrificateurs, des scribes qui enseignent la loi dans cet endroit-là. Et nous allons lire ce texte parce que la veille, Jésus a accompli quelque chose qui nous est présent à l'esprit, qui est devenu même une expression proverbiale, il a chassé du temple les marchands du temple. Dans ce temple qui était voué à la louange, à l'adoration de Dieu, dans ce temple où les Juifs venaient, et même les étrangers, recherchaient le pardon de leurs péchés en offrant des sacrifices, eh bien les religieux avaient institué une espèce de mafia, un système où on vendait les sacrifices, où on échangeait de la monnaie avec des taux, bien entendu, avantageux pour ces religieux, et ils s'en mettaient plein les poches sur le dos de la foi, de la crédulité des gens qui venaient au temple. Et Jésus avait fait table rase de tout cela, il avait renversé les tables, il avait été d'une violence assez inhabituelle et étonnante, parce que la violence des actes de ces religieux était aussi insupportable. Et donc, nous lisons ce texte dans Marc, au chapitre 11, les versets 27 à 33. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple, dans ce lieu même que je viens d'évoquer. Pardon, excusez-moi, je me trompe de verset. Voilà. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem et pendant que Jésus se promenait dans le temple, dans ce temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui. Et ils lui dirent, « Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné l'autorité de les faire ?» Jésus leur répondit, « Je vous adresserai aussi une question. Répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. » Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. « Si nous répondons du ciel, il dira, mais pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ? Et si nous répondons des hommes, eh bien, ils craignaient le peuple, car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. » Alors ils répondirent à Jésus, « Nous ne savons. » Et Jésus leur dit, « Eh bien, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Il y a là, réunis en face de Jésus, en confrontation à Jésus, du lourd. Les grands prêtres, probablement Anne et Caïphe, et on les retrouvera tous, retenez leur nom de ces gens-là et ces catégories de personnes, parce qu'on les retrouvera tous dans les textes qui vont suivre, et en particulier au moment du procès de Jésus. Les souverains sacrificateurs, les grands prêtres, qui tiennent leur supposée autorité d'une descendance familiale. Ils sont descendants d'Aaron, et donc ils ont la maîtrise sur la gouvernance du temple, sur la pratique des sacrifices, et ce sont eux les maîtres d'œuvre de ce commerce auquel Jésus a mis fin quelques moments avant. Il y a là les scribes. Les scribes, ce sont ceux qui savent. Ils ont une supposée autorité théologique. Ils enseignent la loi. Et il y a là aussi les anciens du peuple, supposés être ceux qui ont l'expérience, la sagesse, qui ont aussi la notoriété publique. Il y a donc face à Jésus du lourd. Et la question qu'il pose à Jésus, elle n'est pas si illégitime que ça, parce que Jésus s'est permis de faire des choses sans aucune autorisation de ses autorités en place, qui sont quand même significatives. Renverser les marchands et il a mis fin à tout ce trafic. On ne sait pas si le lendemain ils ont remonté leur banc de trafic ou pas. Toujours est-il qu'il a fait quelque chose de fort. Et il n'a pas, Jésus, de légitimité authentique pour accomplir tout cela. Il n'est qu'un vulgaire galiléen, une région de Palestine qui était plutôt méprisée, dont on disait qu'il ne sortait jamais rien de bon de cette région. Il n'avait pas fait d'études théologiques, il n'avait pas de famille, de pédigré familial à avancer. Cette question donc n'était pas si illégitime. Mais en fait, c'est un piège. Parce que si Jésus se déclare tenir cette autorité de la part de Dieu, ils vont hurler au blasphème, comme ils l'ont déjà fait d'autres fois et comme ils le feront un peu plus tard. Et s'il dit que cette autorité, il ne la détient que de lui-même, eh bien, il perdra toute crédibilité parce qu'il n'aura plus qu'à se soumettre à eux s'il n'est qu'un homme comme les autres, puisque ce sont eux les régisseurs du temple et du culte rendu à Dieu depuis des siècles. S'ils réagissent ainsi, c'est parce que Jésus les a touchés au plus profond de leur péché. Jésus les a touchés sur un point qui est sensible, celui de leur enrichissement personnel au travers du système des sacrifices, que Dieu lui-même a instauré, ce système, mais que les hommes, et les religions en particulier, ont perverti. Ces sacrifices qui étaient pour le pardon des péchés, mais qui n'avaient qu'une valeur pédagogique pour annoncer un temps à venir. Et ce temps, Jean-Baptiste, depuis un moment, avait dit qu'il était arrivé, ce temps. Jésus va avancer avec une contre-question. Il y a quelque chose à la première lecture, je ne sais pas comment vous réagissez, qui paraît un peu enfantin. Je ne vous dirai pas. D'abord, répondez à ma question. Et après, je vous dirai. Na, un petit peu quelque chose comme des dialogues d'enfants dans les cours de récréation. Mais en fait, cette question, Jésus ne va pas aller sur ce terrain-là par hasard, parce que Jésus et Jean-Baptiste, il y a une mise en parallèle qui est appropriée et ces chefs religieux vont comprendre très vite cette mise en parallèle. D'abord, Jean-Baptiste est le dernier des prophètes que Jésus a envoyé, que Dieu ait envoyé avant la venue de Jésus et pour annoncer sa venue, pour préparer son accueil. Comme Jésus, Jean-Baptiste n'avait aucune légitimité naturelle, pas de famille non plus. Il n'a pas suivi les voies habituelles d'accès au sacerdoce. Il était dans le désert, vêtu d'une peau de chameau, rien de très conventionnel par rapport à tous ces religieux. Et plus que cela, comme Jésus, il a dénoncé le système du temple, tel que les religieux le pratiquaient. Il est allé au bord du Jourdain et il a prêché la repentance et le baptême en signe de repentance sans passer par le circuit des sacrifices. Il leur annonçait qu'il y avait un Dieu qui était capable de les pardonner lorsqu'ils trouvaient un cœur sincère et un cœur prêt à accueillir celui qui allait suivre et qui allait permettre le pardon des péchés sans passer par le système des sacrifices, mais en passant par la foi dans son sacrifice. Et lorsqu'il a vu venir Jésus à lui, il a dit « Voici l'agneau de Dieu ». Et le terme agneau n'était pas choisi au hasard, puisque c'était le sacrifice pour la culpabilité que Dieu exigeait de son peuple. Il a reconnu Christ comme tel, comme l'agneau de Dieu qui vient pour le péché du monde. Et on peut dire d'une certaine façon que Jésus-Christ et Jean-Baptiste, c'était même combat. On court-circuite le temple qui n'est devenu plus qu'un système religieux périmé, qui n'a plus de sens, qui n'a plus de valeur, pour se tourner vers la personne même du Messie, Jésus-Christ. Mais ceci, les religieux ne l'avaient pas compris. Donc la question de Jésus, elle a valeur. Et en se prononçant, en se positionnant honnêtement, à propos de Jean-Baptiste, c'est en fait à propos de Jésus-Christ qu'il se positionnait. Et Jésus les met donc à un défi. Réfléchissez au précurseur pour comprendre celui qui est là maintenant devant vous. Du côté des religieux, de l'arrogance, on passe au silence. On passe à la lâcheté. On passe à la peur. La force est avec eux. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Il y a là vraiment des gens respectés. Peut-être qu'ils sont même entourés de la police du temple. Il y avait une police du temple, celle qui arrêtera Jésus un petit peu plus tard. Et dans l'Écriture, ils sont nombreux les exemples où le faible a affronté le fort. Le faible qui est soutenu, qui est à l'abri de la protection de Dieu, comme nous l'a dit Joe dans son introduction, et on est assez dans la continuité de ce thème. Le faible qui provoque l'effondrement de ses forces humaines. On le verra un petit peu plus loin avec Pilate. Pilate qui avait tout pouvoir sur la Palestine à ce moment-là. Il a tremblé au moment où il devait prononcer le jugement sur Jésus. Et c'est pourquoi Jésus, à propos de ses autorités, disait, et c'est peut-être un encouragement pour ceux qui, comme Malik, vivent dans un contexte d'oppression, de persécution, de difficulté, que de savoir, d'écouter ce mot que Christ a prononcé, et il a dit « ne les craignez pas, ne les craignez pas ». Et on voit Jésus ici, ce n'est pas lui qui tremble, ce sont ces religieux qui tremblent devant le peuple et devant la force de Jésus-Christ. Du côté de Jésus, le rapport de force a basculé, et c'est Jésus dorénavant qui a la maîtrise de la parole et qui va la tenir jusqu'au bout. À plusieurs reprises dans les évangiles, on voit que Jésus a refusé de répondre à des questions. Et ça peut nous paraître très curieux. On se dit, mais pourquoi il ne répond pas? Il y a là une occasion de dire la vérité. Eh bien, il y a ce principe que l'on voit dans l'Écriture, dans les évangiles d'une façon générale, qu'à celui qui est endurci dans l'incrédulité, celui qui est de mauvaise foi, celui qui croit poser un piège en posant une question, il n'a plus de légitimité à recevoir de réponse. Et c'est le cas de ces religieux. Parce qu'une révélation leur a été faite, une première révélation, et ça aussi c'est quelque chose que l'on voit souvent dans l'Écriture. Lorsqu'une révélation appelle une obéissance, Jean-Baptiste est venu à appeler à la repentance. Ils ne se sont pas repentis. Lorsqu'une révélation appelle à l'obéissance et que l'obéissance n'est pas, Dieu refuse une autre révélation. La patience de Dieu a des limites. Et Jésus, donc, qui a la maîtrise de la parole, enchaîne avec une parabole qui va, de toutes les paraboles, être probablement la plus explicite de celles que nous avons dans l'Écriture. On va la lire. Chapitre 12, verset 1. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour, puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisi de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur, ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il en envoya un troisième qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres qu'ils battirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux le dernier, en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais ces vignerons dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Et ils se saisirent de lui, le tuèrent, et le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne ? Il viendra, fera périr les vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole dans l'Écriture ? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, car c'est par la volonté du Seigneur qu'elle l'est devenue, et c'est un prodige à nos yeux. Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole, et ils le quittèrent et s'en allèrent. Il y a quelque chose de pathétique dans cette historiette. C'est la pleine conscience, en racontant cette histoire, que Jésus a, qu'il est ce fils bien-aimé que l'on va tuer dans quelques jours. Qu'il est cette pierre que l'on a rejetée, mais sur laquelle Dieu va bâtir un édifice solide. Et en racontant cette histoire, cette parabole, souvent il avait des intentions de cacher la vérité pour qu'on la cherche. Mais là, il est explicite et les religieux en sont pleinement conscients. C'est une espèce de chaos infligé à ces religieux dans ce combat. L'homme qui plante la vigne, qui en prend soin, qui s'y investit, qui la dote de tout ce dont elle a besoin, c'est Dieu bien entendu. Et cette vigne, pour reprendre une image qui est constante au cours de l'Ancien Testament, eh bien c'est Israël. Parce qu'ici, en quelques mots, Jésus résume l'Ancien Testament et les évangiles à la fois. L'évangile de Marc ne comporte pas de récit de Noël, assez curieusement. Il démarre avec le baptême de Jésus-Christ, le ministère de Jean-Baptiste. Mais c'est un peu le récit de Noël de Marc, ce fils bien-aimé qui vient ici. Les serviteurs auxquels il donne la vigne en métayage, ça s'appelle comme ça, un contrat par lequel des serviteurs s'occupent de la vigne, en récoltent les fruits, en gardent une bonne partie de la récolte et ne donnent au propriétaire qu'une petite partie en location de la propriété. Ces serviteurs, ce sont ceux que Dieu a institués dans la loi de Moïse, les sacrificateurs, ceux qui peu à peu se sont ensuite installés, les scribes par l'étude de la loi, les anciens du peuple, etc., tous ceux qui ont une charge de veiller sur le développement spirituel de ce peuple et d'en recueillir, en même temps que Dieu en tire gloire, d'en recueillir aussi des bénéfices que d'être dans un peuple qui aime Dieu, qui hait le péché et qui adore son Dieu. Tous ces envoyés que le maître, ces émissaires que le maître envoie pour récolter cette part qui est un dû au propriétaire, à Dieu, ce sont ces prophètes successifs qui sont venus. Ésaïe, qui a été tué, Jérémie, qui a été emprisonné, Jean-Baptiste, dont on parlait juste avant, qui a été aussi tué, qui a été l'envoyé, l'ultime, et puis le Fils. Et dans cette parabole se trouvent les critères de réponse à la question des religieux. L'autorité de Jésus, elle repose sur le fait qu'il est le Fils, qu'il est l'héritier légitime, celui à qui tout pouvoir a été communiqué, Jésus le dira, après sa mort. Il est le bien-aimé. Il est l'envoyé. Son autorité, s'il la tient, c'est parce qu'il est envoyé du patron, du propriétaire. Il est l'ultime à venir. Après lui, il n'en viendra plus d'autre, plus aucun autre, ni Mahomet d'ailleurs. Il est celui dont les prophètes ont parlé, en annonçant à l'avance quel sera le sort qui lui sera réservé, et en annonçant aussi que sur cette pierre angulaire, Jésus-Christ, un édifice nouveau va être édifié, l'Église. Tous ceux qui lui appartiennent, qui croient en lui, après sa résurrection, et de savoir qu'il y a du nouveau après qu'il ait été rejeté, c'était une façon d'annoncer aussi sa résurrection. Les religieux, de l'arrogance, ils sont passés à la culpabilité, leur cœur est touché, mais de la culpabilité, ils ne sont pas passés à la repentance. Et c'est là que se situe le nœud dramatique de cette histoire. Pas plus qu'avec Jean-Baptiste, ils ne sont parvenus à la repentance. Avec Jésus-Christ non plus, ils ne parviendront pas à la repentance. Et il ne leur restera plus qu'une fuite en avant dans la haine et dans la violence du meurtre à l'égard de Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui... Il est dans la lucidité. Il sait que ses jours sont comptés, que ce Fils bien-aimé, c'est lui, et que dans quelques jours, il sera lui aussi tué, les religieux pensant peut-être de cette façon de s'approprier l'héritage religieux du système dans son institution la plus nauséabonde, impure, perverse, qu'ils ont peu à peu instauré à Jérusalem. Voilà la fin de cette histoire, que pouvons-nous en retenir? D'abord, Jésus nous invite à un questionnement sur son autorité. La question des religieux était légitime, comme on l'a dit. Son autorité, je ne sais pas comment vous, personnellement, vous vous positionnez par rapport à elle. Des prophètes l'ont annoncé des siècles auparavant. Il est venu, son chemin a été préparé par Jean-Baptiste. Il a donné un enseignement qui a frappé le monde entier. 2000 ans après, on parle encore de lui. Il a accompli des œuvres. Il a démontré quelle personne il était, son caractère. Il a démontré que le péché ne l'habitait pas. Il a démontré que s'il avait pu échapper à la mort, eh bien, il ne l'a pas fait. Parce qu'il voulait accomplir la volonté de son Père jusqu'au bout. Il y a là des éléments suffisants pour attester l'autorité de Christ. Et la question qui se pose à nous, quelques-uns d'entre nous peut-être, qui ne connaissent pas encore cette autorité de Christ, qu'est-ce que nous en faisons? Comme les religieux face à Jean-Baptiste ou à Jésus-Christ, dans une espèce de fuite silencieuse, lâche, habité par la peur ou l'indifférence, ou est-ce que nous nous soumettons à lui? Dans l'Écriture, croire, c'est obéir. Et nous avons vu que si nous n'obéissons pas, nous ne nous plaçons pas sous l'autorité de celui qui est appelé dans l'Écriture le Seigneur, à un moment donné, Dieu ne répond plus à nos questions. Et la patience de Dieu, comme dans la parabole ici, si elle est immense, elle a aussi une limite. Ne jouons pas par une indifférence trop longue et prolongée à la perception de l'autorité de Christ et le désir de lui obéir. Ne jouons pas avec le risque de voir Dieu se taire à notre égard. Est-ce que ce questionnement de Jésus-Christ, nous l'avons mené avec honnêteté et non pas avec un esprit pervers. Je l'ai fait moi-même pendant longtemps avant ma conversion, que de chercher les contradictions, de chercher des incohérences auxquelles ma petite intelligence pensait pouvoir s'attacher avant que Dieu me convainque que j'étais dans le faux. Ne questionnons pas en pensant tendre un piège à la foi. Questionnons honnêtement. Et si nous avons questionné et compris, obéissons. La deuxième chose, l'autorité, et ça mériterait beaucoup plus de développement que je n'en ai le temps ce matin, c'est un concept que Dieu a voulu, que Dieu a instauré dans sa création tout entière. Et ici, nous avons une illustration à la fois de ce qu'il y a de plus beau dans ce concept et à la fois de ce qu'il y a de plus noir dans ce concept. Ce que je n'oserais même pas appeler l'autorité, mais la domination. Depuis le début de l'histoire, Satan a perverti ce concept de l'autorité. Il l'a voulu l'usurper. Il a voulu outrepasser l'autorité que Dieu lui avait déléguée. Et il a emporté avec lui l'humanité entière dans la chute et dans le péché. Toute l'histoire de la révélation, de la création à la fin, peut se lire au travers d'une grille de lecture qui est celle de l'autorité. L'autorité de Dieu est-elle respectée ? Celle qu'il délègue est-elle exercée de la façon dont il veut que nous l'exercions ? Qu'en avons-nous fait de cette autorité qu'il nous a donnée à chacun ? Parce que nous avons tous une part d'autorité, tous. Nous avons l'autorité sur nous-mêmes, notre propre conduite, notre corps. Nous avons, dans un cadre conjugal, l'autorité sur notre famille, notre couple, une autorité partagée à laquelle Dieu a donné des règles. Nous avons dans une famille l'autorité des parents vis-à-vis des enfants. Nous avons dans la profession l'autorité de celui qui est amené à diriger par rapport à ceux qui sont amenés à se soumettre. Nous avons dans la société des autorités civiles, politiques, sociales. L'Écriture a traité de toutes. On ne peut pas rentrer dans le détail, là, très rapidement dans ce survol. Nous avons dans l'Église aussi des autorités que Dieu a instaurées. Et la grande question qui se pose, est-ce que ces autorités sont vécues selon le modèle que Dieu a instauré et qu'il a exprimé à la perfection en Jésus-Christ, ou selon ce modèle perverti qui était celui mis en œuvre par les religieux et que Satan a exploité au maximum? L'autorité, juste quelques principes ici, procède, toute autorité procède de Dieu. Et il en fait délégation. Il est le maître suprême, le créateur. Il en fait délégation avec attente de remise de compte. Ses serviteurs qui viennent pour prendre leur part de la récolte qui lui est due. Cette autorité, elle ne peut se maintenir, s'affirmer et rester légitime que lorsqu'elle est elle s'exerce pour le bien de celui sur qui elle s'exerce. Les religieux avaient fait tout le contraire. Ils l'exerçaient à leur propre profit. L'autorité, elle ne peut se légitimer et devenir respectable que si elle procède du modèle, de l'exemple de serviteur que celui qui détient l'autorité donne. Jésus-Christ l'a illustré à merveille. Il a dit qu'il était venu pour être le serviteur de tous, alors que toute autorité lui était due en tant que fils de Dieu. Cette autorité ne peut être légitimée que parce qu'elle est menée dans l'humilité, dans l'amour et dans la grâce. Autrement, elle n'est que domination et asservissement. Et ce texte nous interroge sur un autre aspect. Nous qui avons ce modèle d'autorité que Dieu instaure, nous en avons la description, la déclinaison précise dans l'Écriture de comment elle doit s'exercer, dans l'humilité, la grâce, l'esprit de serviteur en tant que modèle, en en rendant compte à Dieu, en sachant qu'elle ne nous est que déléguée, que nous ne sommes propriétaires de rien, etc., ce que j'ai évoqué très, très brièvement. Comment exerçons-nous notre autorité ? L'autorité pervertie qu'ont exercée les religieux de l'époque a empêché le peuple d'accéder à la connaissance de Dieu comme il aurait dû y accéder. Il y a des conséquences graves. Quelques-uns d'entre nous qui ont un ministère pastoral peuvent témoigner aussi du fait que, par exemple, une mauvaise autorité exercée par un père sur ses enfants peut peut-être devenir à un moment donné un obstacle à ce qu'ils accèdent à la connaissance de Dieu tel que Dieu veut être connu comme un Dieu d'amour, de grâce, de pardon, mais de sainteté aussi. Il y a des conséquences graves au fait d'exercer l'autorité qui nous est dévolue, et à chacun d'entre nous, il nous en est dévolu une. Il peut y avoir des conséquences graves que de l'exercer à contresens de ce que Jésus-Christ a démontré et enseigné. Et nous avons des questions à nous poser là-dessus. Je laisse devant vous simplement ce verset de... Pardon, j'ai laissé un peu de côté pour raccourcir mon propos, le PowerPoint. Je laisse devant vous ce texte de l'Écriture qui nous présente, c'est une photographie de la vie de Christ, de la façon dont il a conçu l'autorité. Et il était légitime à combattre l'autorité de ceux qui la conduisaient d'une façon tellement opposée à ce que Dieu a voulu. Amen.